Merci Jérémy Rousseau, à dimanche prochain.
Oh, what an elegant room.
Well, it's not Buckingham Palace, but it's Wilson's little castle.
L'air des lieux, depuis le Metropolitan Opera de New York, jusqu'à 23h. J'ai oublié quoi ?
Jusqu'à 23h30 ?
À 30 !
Sur France Musique.
Alors, 30 sur France Musique.
C'est mythique d'abord par l'histoire. Le Met, ça date pas d'il y a 10 ou 40 ans de Levan. C'est fin du 19e, début 20e, avec les gens faisaient le grand tour et faisaient scala, ils prenaient le bateau, les chanteurs. Toscanini venait ici, dirigeait au Met, restait deux mois, repartait. Gustav Mahler a dirigé le New York à côté. Enfin, voilà, il y a tout ça qui fait qu'il y a toute une histoire. Et qui est maintenu, parce qu'il y a des théâtres qui ont été très connus, par exemple au 19e, début 20e, et puis qui disparaissent. C'est le fait que ça reste, toujours aujourd'hui, les choses se cumulent avec les vannes et puis celles qui précèdent.
L'air des lieux, depuis le Metropolitan Opera de New York jusqu'à 23h30 sur France Musique.
Bravo maestro.
Merci.
Ça, c'était plus dur que de la journée que j'ai fait aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est le deuxième volet de notre équipée new-yorkaise. Nous rejoignons sans plus tarder le Metropolitan Opera et ses coulisses. Ce jour-là, nous avions rendez-vous à l'angle de Columbus Avenue et de la 59e rue avec un chef français, Alain Altinoglu. C'est lui qui dirige ces jours-ci une nouvelle production du Werther de Massenet avec Jonas Kaufmann dans le rôle-titre.
Altinoglu, on fait le chemin qui mène de votre résidence new-yorkaise, j'allais dire, puisque vous êtes là quand même pendant deux mois pour ces répétitions et les représentations de Werther jusqu'au Metropolitan Opera de New York. Puisque vous connaissez très bien cette ville, maintenant j'aimerais bien que vous situiez un peu les lieux justement, à quel endroit nous sommes, et où se situe justement ce Lincoln Center et le Met dans la ville.
Pour situer assez facilement, il y a Manhattan, donc qui est New York, au plein centre de Manhattan, il y a Central Park, ça on ne peut pas louper. Et Central Park délimite géographiquement plutôt la ville. Et le Lincoln Center, où se trouve le Metropolitan Opera, se retrouve à l'ouest du Central Park. On appelle ça le Midtown, milieu. Et c'est à cet endroit que se trouve l'opéra. Et c'est assez facile l'architecture en Amérique en général à New York, ça marche par blocs, c'est des blocs de rues. Donc le Lincoln Center se trouve au niveau entre la 62e et la 65e rue. Et c'est facile de calculer parce qu'ici, on dit qu'un bloc de rue, ça fait une minute à pied. Donc quand vous habitez à 5 blocs, vous habitez à 5 minutes. Ça sont les rues. Et les avenues, par contre, sont 5 fois plus grandes, donc c'est 5 minutes.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le Lincoln Center, évidemment, il regroupe un grand nombre d'institutions culturelles, musicales, de la ville ici à New York. On va au Met, mais tout à côté, c'est le New York City Ballet par exemple, tout à côté c'est la salle du New York Philharmonic, tout à côté encore c'est la Juilliard School.
Exactement. Donc, et malheureusement aussi, ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y avait le New York City Opera qui était là depuis des années et qui malheureusement a fermé ses portes. Et ça, c'est les dangers aussi des endroits comme aux États-Unis où l'argent n'est pas public. Mais l'argent vient des mécènes, des sponsors. Si les sponsors se retirent, les mécènes se retirent, on ne peut plus faire de musique. Et c'est une grande chance qu'on a en France d'avoir encore notre argent public pour la culture. C'est absolument très important. Et donc évidemment, c'est un lieu magnifique parce que regroupement de toutes ces institutions, les unes à côté des autres, à la Juilliard, donc les étudiants qui sortent de là peuvent passer les concours pour entrer au New York Philharmonic ou au Metropolitan Opera. Et voilà. Souvent, d'ailleurs, les professeurs font partie des orchestres aussi.
se parle, voilà, on est arrivé devant le Met. Vous le trouvez comment, vous, ce bâtiment? Donc, je rappelle qu'il a été édifié, c'est le second Met, hein, c'est le nouveau Met.
Oui, oui,
celui-ci date de 1966.
Exactement. Donc, ils ont déménagé à quelques rues ici. Et bah, c'est mythique, quoi. C'est-à-dire que la photo qu'on a vue quand on était en France à Paris, et bah, on se retrouve devant. Et puis, non, voilà, c'est très beau. Alors, est-ce, architecturalement, vous voulez savoir ce que j'en pense?
Oui, on devrait même voir les deux Chagall, on ne les voit pas, hein, parce que là, j'ai l'impression que les rideaux ont été tirés. Mais il y a
vous savez qu'il y a une copie d'un
jardin,
Chagall.
Donc, dans le foyer du Met.
Ouais, ouais.
Voilà, deux tableaux de Chagall.
Et d'ailleurs, une des salles de répétition en bas, au sous-sol, je vous montrerai si vous voulez. Il reste encore une copie d'un grand Chagall qui a servi de décor et qui est sur le mur. Et on répète en face de ce Chagall et c'est pas mal, non?
Et vous le trouvez comment, vous, alors, ce bâtiment?
Alors, je le trouve carré.
Je confirme.
Et, non, non, c'est très, très, très simple, je trouvais. C'est bien. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Non, non, je trouve ça très joli, très, très bien.
Et alors, vous entrez par l'entrée principale? Vous n'entrez pas par
l'entrée?
Ouais, alors,
les artistes montrer...
sous le tunnel?
Non, non, je vous montrer un petit secret, abonnez-moi. J'ai calculé que je gagnais une minute en passant par là. Le temps est compté. Non, en fait, c'est...
On prend les escaliers, on passe sous la boutique du Met.
On passe sous la boutique du Met et on se retrouve à l'entrée des artistes, en fait. Et encore, cette année, ils ont fait un effort, comme vous allez le voir, devant l'entrée des artistes à laquelle on va arriver. Là, on est comme dans une sorte de garage, là. Il y a écrit entrée des artistes, parce qu'avant, c'était pas écrit. Et c'est vrai que la première fois que je suis venu, j'ai un peu cherché, effectivement, parce qu'on se dit que c'est pas possible que ça soit ici, c'est pas possible. Et vous voyez le panneau là où il y a écrit Metropolitan Opera Stage Door. Vous voyez, c'est écrit là. Bah, il n'y avait pas ça avant. Le seul truc qu'il y avait déjà, c'était le tapis rouge.
C'est une petite indication.
Une indication, ouais. De se dire tiens, il va se passer un truc ici. Merci. Hello Gary, how are you? Happy to see you.
Oh,
really? Oui, on va prendre. Bah, si vous voulez venir, moi ça ne dérange pas.
C'est la première répétition orchestre, donc, ce matin.
Orchestre avec les chanteurs, les décors, les costumes,
oui,
et tout ça.
Scène orchestre,
voilà, c'est ça, exactement. À tout à l'heure.
C'est dur le lundi.
Oh, c'est dur le lundi. Je suis Denise Massé. En français, je crois qu'on dit chef de chant au Metropolitan Opera, mais pour l'opéra français seulement.
Ça veut dire que vous êtes attachée à cette maison, au Metropolitan Opera de New York?
Depuis 1993.
Comment devient-on d'ailleurs chef de chant dans une aussi grande maison que le Metropolitan Opera?
D'abord, je suis pianiste, mais j'ai toujours accompagné les chanteurs. J'adorais les voix. J'ai étudié 3 ans à Vienne. Et quand je suis revenue, je suis née à Montréal, donc je suis retournée à Montréal. Et on n'avait pas de compagnie d'opéra à l'époque. Mais on avait un festival à Ottawa, la capitale du Canada, festival d'été. Et j'ai rencontré le chef d'orchestre, Mario Bernardi. Et je lui ai dit que j'étais très intéressée de me rapprocher d'opéra, ça me manquait. Et il a pris le risque de me prendre pour l'été qui suivait. Et j'ai fait 7 saisons avec lui. Et il m'a tout montré, vraiment. C'était un chef d'orchestre très, très, très exigeant. Et qui avait fait ce métier aussi. Donc, il savait très bien ce qu'un chef d'orchestre attendait d'un pianiste. Et après, on a ouvert une compagnie à Montréal. Donc, je suis devenue le chef de chant à l'Opéra de Montréal. Mais là, tout le répertoire, vraiment. Et... Évidemment, à Montréal, on a invité des metteurs en scène de New York. Et il y a Fabrizio Milano, qui était un metteur en scène ici, au Met, qui a travaillé avec moi à Montréal. Et à la fin des répétitions, il m'a dit, je crois que James Levan s'entendrait très bien avec toi. Il aimerait bien. J'ai pensé que c'était une blague.
Comment il présentait ça, enfin, quelles affinités?
Juste comme ça, mais j'ai dit... parce qu'il m'avait vu travailler, probablement, et que j'étais déjà très sérieuse dans mon travail comme pianiste. Et j'ai dit, ah ben, je crois bien que j'aimerais travailler avec James Levan, mais je ne crois pas qu'on l'engage à Montréal. Et il a parlé de moi ici. Et je crois que Janine Rice a dû annuler à la dernière minute une production des Troyens en 93. Et je venais de finir les Troyens avec Charles Dutoit pour un enregistrement de Deca. Donc Fabrizio, ce metteur en scène, était resté en contact avec moi. Et il a parlé de moi à James Levan, qui semble connaître... m'a engagée. C'est comme ça que je suis rentrée. Alors, je travaille d'abord avec les chanteurs, mais aussi je dois écouter ce que veut le chef d'orchestre et je dois aussi savoir comment le metteur en scène a lu le texte. Quelle est son interprétation, un peu comme au théâtre. Quelle est son interprétation?
Dans le cas présent, donc, cette nouvelle production de Werther, donc Alain Altinoglu qui est à la barre pour la musique, et Richard Eyre qui met...
Il a ses idées musicales. Alain est très précis dans ses directions. Et donc, je prends ses tempi. Ça change la prononciation, souvent, la prosodie en tout cas. Et aussi, le metteur en scène est génial. Il vient du théâtre, donc chaque mot a son parfum. Et donc, j'essaie de voir quel caractère il veut donner. Et puis après, je trouve l'articulation du texte qui va exprimer ce caractère. C'est très, très, très intéressant. Pour les chanteurs qui viennent d'Europe, c'est impressionnant. Ils ont peur de la grandeur de la salle. Ils sont là et ils me disent souvent, on dirait un monstre avec la gueule ouverte. C'est drôle parce qu'ils ont tous envie de chanter plus fort. Et ils n'ont pas besoin, c'est une bonne salle. Après une ou deux répétitions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de pousser, au contraire. Ils entendent le son revenir, donc ça les rassure. Mais à l'œil, c'est vrai que ça fait peur. Ouais, le chef, ils sont tous pareils.
Ça va? Tu vas bien?
Ça va très bien.
On parlait à l'instant avec Denise de la toute première fois, par exemple, que des chanteurs viennent ici au Met, appréhendent cette scène, l'acoustique de cette salle. Alors, question au chef, Alain Altinoglu. Ouais.
Mais le Met n'est pas si grand que ça dans les coulisses, les auditeurs ne peuvent pas le voir. Mais c'est ça, en fait, c'est ça par rapport étonnant. À la renommée du lieu, qui est vraiment peut-être un des opéras les plus connus au monde, on est au sous-sol, trois étages sous-sol, on a trois salles de répétition, une pour l'orchestre, une pour ballet. Et puis voilà, c'est pas... Ils ont comparé à l'Opéra Bastille, qui est vraiment un building. Ah oui, c'est énorme. Ici, voilà, c'est plus petit.
Bon, merci. On vous laisse travailler. Ça se passe comment, votre emploi du temps aujourd'hui, Alain?
Alors, mon emploi du temps aujourd'hui est plus court que d'habitude. On a une répétition jusqu'à 14h, je crois. Mm-hmm. Et ensuite, voilà.
Tu peux donner des notes après, des corrections.
Après, oui, on peut donner des notes et des corrections aux chanteurs. Mais disons que ce n'est pas une des longues journées aujourd'hui. Voilà. Et ils aiment bien ici travailler plutôt... 4 heures ou 4 heures et demie d'affilée et puis ne s'arrête après plutôt que de faire 2 heures, une pause de 2 heures pour aller manger avec un petit Bordeaux et de revenir. C'est plutôt l'idée, c'est ici. Non, puis il faut dire qu'avec les météos ici, les gens ne peuvent pas rentrer chez eux parce que là en ce moment il neige. Parfois ils mettent 1 heure et demie, 2 heures de voiture pour venir, même quand ils habitent de l'autre côté des ponts. Donc voilà, vaut mieux resserrer les répétitions et pouvoir repartir chez soi tranquillement.
Quelle idée on a envie de donner de cette musique de Massenet, de Werther, Alain Altinoglu, nous qui venons de l'entendre il y a quelques semaines à Paris, avec Michel Plasson dans la fosse. Vous ici, qu'est-ce que vous avez envie de faire entendre de cette partition?
En fait, Massenet, qui utilise un vocabulaire très différent selon le livret qu'il a, parce que ce n'est pas du tout pareil, Werther, que Manon, que Cléopâtre, que Thérèse, tout ça, c'est très différent. Et on tire un peu vers Goethe quand même dans cette partition, c'est-à-dire vers l'Allemagne avec ses chromatismes qui font penser à Wagner. C'est-à-dire il faut se rappeler que Massenet adorait Wagner. Avant de composer Werther, il avait écouté tout le Ring. Juste après, il va aller à Bayreuth. Et en allant à Bayreuth, il va d'ailleurs passer chez Goethe pour s'imprégner du bureau parce que Werther lui tient extrêmement à cœur. Donc, montrer aussi qu'il y a cette influence chez lui, chez Massenet, dans cet opéra. Voilà, et le texte est important, le rapport au texte, et j'espère montrer comment Massenet imbrique sa musique par rapport au texte. Quoi. Pas seulement la diction, mais comment le livret est construit. Parce que je trouve que c'est extrêmement bien construit. Le Goethe est un chef-d'œuvre, évidemment, mais d'avoir développé le rôle de Charlotte comme il l'est au troisième acte, dramaturgiquement, d'avoir raccourci des choses, c'était très très bien réussi. Ouais.
Le fait d'avoir un ténor allemand dans le rôle-titre, Jonas Kaufmann, ça change un peu le point de vue?
Bien sûr, ça change. Surtout lui, c'est quelqu'un de très cultivé, qui lit beaucoup, et forcément, il a cette culture allemande. Donc, forcément, ça tire plus vers le côté allemand que vers le côté latin.
Il y avait des couleurs aussi dans la voix.
Bien sûr.
Alors lui, il a... étonnant, hein, Jonas Kaufmann.
Hein. Mais lui, c'est une couleur très particulière à lui, et ça, il l'a, que ce soit dans Faust, dans Don Carlo, ici. Ça, c'est la particularité de sa voix. Mais c'est ça qui est formidable dans les grands chefs-d'œuvre, c'est qu'on peut avoir des types de voix totalement différentes, et le chef-d'œuvre survit toujours à ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste un type de voix. Et Et je crois que Werther, pour moi, c'est le grand, grand chef-d'œuvre de Massenet.
Sur France Musique, bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes au Met à New York et ce sont des extraits inédits ce soir du Werther que Jonas Kaufmann y chante en ce moment sous la direction d'Alain Altinoglu. Extrait capté lors de la première représentation, c'était le 18 février.
Je suis Jean-François Borras, ténor. Je suis arrivé pour le début des répétitions de Werther, donc le 18 janvier. Et je suis donc la cover de Jonas Kaufmann pour le rôle de Werther de Massenet.
Doublure, donc.
Doublure, exact, la doublure.
Ça consiste en quoi exactement d'être une doublure sur
J'en ai pas fait beaucoup. À quoi ça consiste? On est présent pour toutes les répétitions parce que Jonas est arrivé un peu tard. Donc, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de monter tout l'opéra avant que Jonas arrive. Et j'ai même eu la chance, chose apparemment qui se fait pas souvent, de chanter la musicale avec orchestre parce que Jonas était malade. Donc, on va dire que j'ai eu l'occasion de faire une doublure de luxe pour mes débuts dans Werther. Au Metropolitan. Je suis payé pour être là tous les soirs où il y a une représentation et s'il arrive quoi que ce soit, en moins de 15 minutes, je dois être sur scène pour remplacer le titulaire.
Ça veut dire que vous êtes dans les coulisses, dans une loge particulière qui vous est dédiée?
Oui, alors on m'a juste montré, donc apparemment ça s'appelle la Green Room. On peut voir le spectacle sur un écran géant et c'est à 10 mètres des loges des artistes. Et hop, on nous pousse sur scène pour pouvoir réussir, comme on dit, hein, le spectacle doit continuer. The show must go on. Moi, je suis déjà très content d'être ici. Première fois que je suis au Metropolitan Opera, c'est une belle expérience. La première personne que j'ai vue mon premier jour, j'ai rencontré... René Fleming, c'est extraordinaire. C'est voilà, il y a plein de productions en même temps et les plus grands chanteurs actuels, lyriques, sont présents dans la maison. Donc c'est une opportunité extraordinaire.
Pourquoi tombe-t-il fou? Et dans mes enfants, tout vient que le rire. L'air des lieux au Metropolitan Opera de New York sur France Musique jusqu'à 23h30.
Anna Altinoglu, cette salle du Met, vous la connaissez depuis quand, je veux dire, cette salle et cette fosse d'orchestre, vous y dirigez depuis combien de temps? Quelles étaient les premières productions
la
ici à New York?
La première production que j'ai dirigée, c'était Carmen, il y a 4 ans. Et en fait, c'était très différent de cette fois-ci, puisque j'arrivais en milieu de représentation. Il y avait déjà eu 8 représentations et moi, je dirigeais 8 autres qui suivaient. Donc, je suis arrivé pour diriger Carmen sans répétition. Donc, je suis arrivé dans la fosse, j'ai dirigé l'orchestre sans le connaître. Et donc, voilà, on se jette. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et voilà, et d'année en année, je suis revenu. J'ai dirigé Faust. L'année dernière, j'ai fait Othello aussi. Et cette année, c'est ma première nouvelle production, en fait. Ce qu'on appelle nouvelle production, c'est-à-dire que c'est une mise en scène qui est en train de se faire. Et c'est ce que je préfère dans le métier du lyrique, c'est lorsqu'on collabore avec le metteur en scène et puis qu'on discute de l'interprétation, avec les chanteurs aussi, comment on construit un opéra. C'est différent quand on dirige une reprise, on arrive, c'est un peu comme si on mettait nos pieds dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Alors des fois ça va très bien, c'est la bonne taille, et puis parfois c'est trop grand ou trop petit.
Chaque maison d'opéra a sa culture, vous les connaissez à peu près toutes hein, maintenant, les grandes, oui. Paris, Vienne. Berlin. Qu'est-ce qui est différent au Met par rapport à toutes les maisons que je viens de citer, Alain Altinoglu, comment on travaille ici tout simplement avec tout le staff, toute l'équipe d'une maison qui prépare une nouvelle production?
Alors comme vous dites, la culture est différente. Donc quand on travaille à New York, c'est la culture américaine. Quand on travaille à Vienne, c'est la culture autrichienne. Et ça se ressent dans les théâtres et ça se ressent dans les orchestres, leur manière de jouer. Ici, c'est extrêmement professionnel. On est dans le plus grand opéra américain. Donc on a, ici vous savez, il y a la culture du meilleur quoi, hein. On a toujours les meilleurs dans les postes, et donc au Met on a les meilleurs dans chaque poste. On a les meilleurs techniciens, les meilleurs musiciens, les meilleurs chanteurs du pays dans le chœur. Voilà, c'est un très très grand professionnalisme. C'est ce qu'on ressent aussi quand on dirige l'orchestre. Alors il faut rendre hommage à James Levine évidemment, qui a formé cet orchestre pendant 40 ans et qui en a fait un des meilleurs du monde. La différence avec Vienne par exemple, de l'orchestre, à Vienne la tradition est tellement ancrée et forte. Je dis n'importe quoi, j'exagère exprès, mais si j'arrive et que je vais diriger la Cidarem la Mano dans Don Giovanni 6 fois plus lentement, je ne sais pas, pris d'une lubie comme ça, à Vienne, ils ne vont pas laisser faire, quoi. Ils vont dire non, ça, c'est quand même pas possible, il y a une marge. Ici, ça se pourrait qu'ils sont tellement professionnels, ils sont payés pour ça, quoi, qu'il se pourrait qu'ils disent, si le chef le demande, on le fait. Vous voyez, c'est un peu, la mentalité est un peu différente. Et voilà, et tout le monde est là au service de l'opéra pour que ça se passe le mieux possible.
Alors, vous rendez hommage à James Levine, c'est vrai, hein, qui a dirigé ici il y a encore plus de 40 ans. Hein. Enfin, il est le directeur musical de cette maison depuis 40 ans. Il a commencé quelques années auparavant. Vous diriez qu'il a vraiment façonné le son de cet orchestre. Tous les grands chefs se sont succédés au pupitre de l'orchestre du Met avant lui. Il y a quelques noms auxquels on pourrait songer. Il y a Mitropoulos, il y a Fritz Reiner.
Bien sûr.
Tous sont venus ici.
Alors, ces grands chefs, lorsqu'ils venaient diriger, c'était extraordinaire, mais ça ne façonne un son de l'orchestre que lorsqu'on est là vraiment régulièrement. Une manière de penser, de jouer. Mais c'est une salle, par exemple, qui fait 4000 places, qui est très grande. Et lorsqu'on doit diriger, par exemple, un opéra de Mozart, qui sont des opéras souvent écrits pour des théâtres beaucoup plus petits, comment on fait sonner l'orchestre? Comment on fait pour que du Mozart sonne bien au Met? Et ça, il a réussi. Lui, quand il dirige, il a réussi à trouver toujours le bon équilibre entre le style, la maison, les chanteurs qu'il a, parce que le plateau est assez grand aussi. Oui, il y a un son particulier, je trouve, à cet orchestre.
Oh, no.
c'est lié à des chanteurs aussi, l'histoire du Met pour vous, Alain Altinoglu, à des personnalités en particulier.
Bien sûr, et par exemple, notre ténor, Jonas, je pense, commence à faire partie. Par exemple, Domingo, pendant des années, a été le ténor qui a ouvert le premier opéra de chaque saison. Et voilà, Jonas est en train de prendre cette place-là, c'est-à-dire d'être ce qu'on appelle le ténor du Met, celui qui fait les nouvelles productions. Et comme a été récemment aussi Annette Repko. Voilà. Donc évidemment, il y a des grands noms qui sont liés au Met et qui resteront à jamais liés au Met.
C'est intéressant ça, de voir justement les liens qui se tissent entre une personnalité, un chanteur ou une chanteuse d'opéra et une maison. C'est très
bien
différent,
sûr, par exemple,
que l'on soit
dernière,
à New York, à Londres ou à,
oui,
ou
à Vienne.
Ou à Vienne hein.
L'année dernière, j'ai vu Traviata et comme il chante les rôles de baryton, maintenant Domingo chantait Germont. Et évidemment, au moment où il apparaît sur scène, les gens applaudissent. C'est-à-dire les gens applaudissent comme on applaudit au théâtre à Paris, des stars de cinéma qui font du théâtre, ou même des stars du théâtre. Les gens applaudissent lorsqu'il apparaît sur scène. Voilà, il y a un lien qui se crée. Et puis, au Met, il y a des chanteurs qui font des petits rôles et qui sont là depuis 20, 25, 30, 40 ans. Il y a des gens qui ont chanté ici 4000 fois, 5000 fois et qui ont chanté jusqu'à 80, 85 ans. Et il y a...
Vous avez dirigé,
oui, non. Que j'ai rencontré, oui. Il y en a un, je ne sais plus son nom, mais qui est mort malheureusement il y a 2 ans et qui avait fait, je crois, près de 4500 représentations au Met, qui était un ténor de caractère, qui faisait tous les petits rôles. Et les fans, enfin les abonnés réguliers le connaissent, quoi. Et les gens l'applaudissaient quand il rentrait sur scène pour chanter 4 notes. Et voilà, les liens se tissent aussi pour, pas forcément pour les grandes stars, mais les stars du Met, c'est-à-dire ceux qui font les petits rôles mais qui reviennent souvent.
Vous accompagnez jusqu'à votre loge ?
Bien évidemment, venez. Est-ce que vous voulez carrément aller dans la fosse, passer par la fosse ?
Ah oui.
Allez, venez. Qu'il n'y a que au Met, c'est à l'américaine. Alors là, on est sur le podium du chef d'orchestre, et ça, c'est à l'américaine. C'est-à-dire, par exemple, si vous trouvez que le pupitre est trop bas, en fait, ça monte, c'est automatique. J'appuie sur un bouton, le pupitre monte et descend. Si moi, je suis trop bas ou trop haut, je monte, je descends. C'est à l'américaine.
Il n'y a que au Met.
Ah oui, nulle part ailleurs. Il n'y a que au Met où le podium du chef est automatisé et où le chef a accès au bouton pour monter et descendre. Ça, c'est incroyable. Ah, je peux vous dire qu'à Vienne, c'est pas comme ça parce qu'il m'est arrivé une aventure il y a un mois. Je suis arrivé pour diriger la première de Don Giovanni et lorsque j'arrive, le pupitre était extrêmement bas, comme ça. Donc, je ne pouvais pas toucher la partition presque. Et j'ai cherché automatiquement le bouton comme au Met. Il n'y a pas de bouton comme au Met. Il y a une manivelle au pied. Donc, c'est le chef d'attaque des seconds violons qui a tourné la manivelle pour me monter le plus haut. Voilà. Thank you.
Et cette fosse d'orchestre quand même, puisque nous sommes justement...
Alors,
voilà,
ouais, la fosse, c'est... Alors la grande difficulté de cette fosse, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle n'est pas profonde, mais elle est très large. C'est-à-dire que les musiciens sont placés en largeur. Et par exemple, entre les timbales que vous voyez à ma droite tout au fond et les contrebasses qui sont tout à gauche, il y a plus de 20 mètres entre les deux. Donc ça, c'est une habitude à prendre pour eux aussi de synchronisation qui est extrêmement difficile. L'avantage, c'est que les bois sont très proches, ils sont juste devant. Et c'est une fosse presque toute ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens sous la scène. Donc il faut faire très attention pour les balances. C'est un peu comme à Vienne aussi, où l'orchestre est très haut.
Pendant qu'on se parle, on a un peu l'idée, j'allais dire, de la force de frappe de cette maison. Le décor de Werther a été débarrassé du plateau et on est en train de monter, j'imagine, le décor de ce soir, c'est-à-dire le Prince Igor.
Exactement. On va dans la loge ?
Oui.
Maintenant que je vois cette entrée, je me rappelle bien la première fois où j'ai attendu ici avec le trac, ouais, je me rappelle. Ouais, ouais, j'étais là et puis on m'a dit vous pouvez laisser votre clé de loge ici, il y a un crochet. Voilà, on laisse la clé au crochet ici, on dirige et puis quand on revient, on reprend sa clé de sa chambre au crochet comme ça. Parce que vous voyez, la loge, c'est juste la porte en face. C'est juste la porte en face et c'est une loge que se partagent tous les chefs d'orchestre qui dirigent en ce moment dans la maison. Il y a 8 casiers, chacun a son casier, donc peut laisser ses affaires. Donc je vais vous montrer.
Voilà, et c'est là où on découvre un peu les coulisses du matin, là, l'Altinoglu.
Ben oui.
Rien n'est extrêmement moderne ici. Hein.
C'est, oui. J'aime bien votre politesse, en fait. Oui, c'est, oui.
C'est ça.
Et donc là, c'est la loge du chef, qui est, disons, un peu, qui est bien entretenue par rapport au reste du couloir, là, que vous voyez. Et en fait, ils ont transformé la loge cette année parce que... Vous savez que James Levine a été malade, il n'est pas venu pendant 3 ans, et maintenant il est en chaise roulante. Donc on a fabriqué un podium spécial pour lui. Quand il dirige en fosse, on amène ce podium qui est comme un petit ascenseur qui le monte. Et la loge, on l'a agrandie, vous voyez ici, pour qu'il puisse rentrer avec sa chaise ici. Et voilà, tout a été refait pour son confort. Et donc voilà, ça, ce sont les 8 casiers. Moi, j'ai le numéro 2 cette année. Alors parfois, c'est le 1, le 8.
Alors ça, c'est excellent quand même. Voilà. Donc, ce sont des grandes, comme des sortes de grandes armoires.
Voilà,
de
grands presque casiers. Des grands comme une armoire normande, un peu, vous voyez, oui. Dans la taille.
Et donc voilà, par exemple, je laisse mes partitions ici. Voilà, c'est son casier.
Alors, et là, donc tous les chefs en ce moment donc, se partagent donc, voilà, cette loge et ses casiers. En ce moment, il y a vous, il y a...
Moi, il y a Yannick Nézet-Seguin, il y a Nozeda qui dirige Principor, il y a... Il n'y a pas Lévagne en ce moment parce qu'il est... Il ne dirige pas en ce moment. Mais voilà, donc il y a tous les chefs du moment, ceux qui dirigent les représentations, ceux qui sont en répétition pour les prochaines, voilà, se partagent cette loge. Alors on a un petit piano, vous voyez un petit joli canapé. Et voilà, c'est...
Elle est pas mal, vous qui mettez souvent sur les réseaux sociaux les photos de vos loges dans les maisons d'opéra, Alain Litenoglu.
Les fans aiment beaucoup ça. J'ai commencé à mettre les photos de mes loges sur Facebook et de les tweeter. Celle-là, je l'avais déjà mise, mais je ne l'ai pas remise depuis qu'elle a été agrandie. Alors, je vais peut-être refaire une photo, vous avez raison de me le rappeler.
Et c'est un nouvel extrait de ce Werther new-yorkais capté au Metropolitan Opera. Jonas Kaufmann y a remporté, vous l'avez entendu, de nouveau un triomphe. Triomphe partagé d'ailleurs avec sa partenaire Sophie Koch, la mezzo-française, qui faisait ses débuts au Met. Et quelques jours avant ses représentations, eh bien, le ténor allemand nous avait donné rendez-vous dans sa loge au Met. C'était au sortir de l'une de ses répétitions. Merci beaucoup.
Non, de rien. J'espère que... que je suis de quelques aides parce que mon français c'est pas tellement bien, malheureusement.
Il est bon le français de Jonas Kaufmann. D'ailleurs, je me demandais en vous écoutant répéter ce Werther qu'on connaît bien sûr, pour l'avoir entendu notamment à l'Opéra Bastille où vous l'avez chanté la première fois. La langue elle-même, le français, c'est facile à apprendre pour vous par rapport à toutes les autres langues que vous chantez, c'est-à-dire l'italien, l'allemand et d'autres encore?
Oui, l'anglais, mais l'anglais aussi, c'est pas beaucoup. Elle est, malheureusement, pas du tout russe. Ça, c'est dur pour moi, parce que j'ai toujours dit que
je préférais chanter seulement dans une langue que je comprends très bien, parce que autrement on semble limité dans notre capacité de spontanéité. Mais je trouve que le français, oui, j'ai dit toujours que la combinaison idéale pour moi, c'est cette combinaison avec le texte, l'histoire romantique allemand, avec le texte français et aussi avec la musique tellement beau. Parce que ce n'est pas une musique douce, c'est une musique riche et plein des émotions et vraiment fort. Donc il aide beaucoup de créer l'atmosphère juste pour cette histoire et d'être capable de jouer avec l'humour, avec des petits détails là-bas. C'est écrit extrêmement beau.
Le Werther qu'on va écouter ici au Metropolitan Opera de New York, qu'on va écouter dans toutes les salles de cinéma aussi dans le monde, vous diriez que du point de vue de la voix, ça a beaucoup changé par rapport à celui qu'on a entendu à Paris il y a 4 ans? Elle évolue comment, cette voix, Jonas Kaufmann?
Oui, certainement. La voix change toujours parce que la voix, ça fait part toujours de mon personnalité, de mon corps, de ma vie. Et peut-être la voix est plus riche et des choses, des phrases qui étant... Quand je l'ai fait là-bas, à Paris, c'était mon début, c'était ma première fois de chanter cette rôle. Donc, c'était plus difficile, plus dur, plus long, plus... Oui, et maintenant, ça semble beaucoup plus facile. C'est pas facile, certainement pas facile, mais plus normal, plus relaxé. Je peux me concentrer sur l'interprétation que... sur peut-être des choses techniques qui m'ont mal copié là-bas à Paris.
Jonas Kaufmann, d'abord j'ai envie de vous entendre parler de cette maison. Comment vous y sentez la première fois que vous y avez chanté? Comment avez-vous découvert à la fois cette maison, ses coulisses, le plateau? Comment sonne la salle aussi? Comment vous y sentez ici au Metropolitan Opera de New York?
Très bien, je dois dire que c'est une grande surprise pour moi. Quand j'étais là la première fois, j'ai toujours pensé que une salle tellement grande sera difficile de chanter là, de remplir avec la voix. Mais au contraire, l'acoustique ici, c'est tellement beau, c'est tellement, je trouve, presque idéal pour mon type de voix. Et je crois que le secret du pas poussé, du pas forcé, avec cette impression de cette salle énorme, au contraire.
Alors l'autre chose, c'est qu'évidemment, comme toutes les grandes maisons d'opéra, elle est associée à des grands noms de chanteurs. Alors, si on ne s'occupe que des ténors, Jonas Kaufmann, le Met, c'est quelle histoire pour vous? Elle est associée à quel grand nom, quel grand ténor? Quels sont ceux qui voilà, vous ont fait vibrer peut-être quand vous étiez tout petit et que vous écoutiez, je ne sais pas, de l'autre côté du poste, mais les retransmissions à la radio des grandes soirées du Metropolitan Opera?
Je me souviens pas exactement d'un exemple, mais je sais, ici, étant les plus grands ténors, comme Richard Tucker ou John Vickers, aussi Placido a fait son début ici, directement après un spectacle au City Opera. Ils ont pris pour remplacer quelqu'un d'autre là. Et le seul ténor que je sais qui était très important dans 100 ans, qui n'a pas chanté ici, c'était Fritz Wunderlich, qui avait fait déjà son contrat pour faire, je crois, Flûte enchantée ici. Mais malheureusement, il était mort quelques mois avant son début au Met. Maintenant, je sais que le début au Met, c'est une autre étape, c'est un autre pas vers une grande carrière. C'est très important aussi pour l'Europe, ce théâtre ici.
Évidemment, vous citez Fritz Wunderlich, ça c'est un nom qu'on a beaucoup cité à votre début de carrière, parce qu'on a voulu associer Jonas Kaufmann, Fritz Wunderlich. Ben oui et non, hein, les chansons comparables, elles ne le sont pas. Si je prononce le nom de quelqu'un comme Franco Corelli, qui a beaucoup compté dans l'histoire du Met, ça évoque quoi, une carrière d'un Corelli à Jonas Kaufmann?
Oui, bien sûr, Corelli, c'était incroyable, cette voix unique. Il a chanté dans une manière... extraordinaire. Aussi, je sais qu'il avait des problèmes avec des nerfs, vraiment, mais sur scène, c'était pas du tout visible et audible. Il était toujours en pleine forme et placé de sa voix dans une manière spectaculaire, vraiment. Ouais.
Rapport au plateau un peu compliqué, beaucoup de stress. Vous avez quel rapport à la scène et au plateau, Jonas Kaufmann, en général?
Non, je suis là, très calme. Heureusement, je n'ai aucun problème avec la nervosité. Normalement, je suis peut-être trop relaxé, trop calme.
Relaxé, vous dites? Quotidien de Jonas Kaufmann pendant des répétitions de Werther quelques jours avant la première. C'est beaucoup de repos, c'est beaucoup de repos pour la voix.
C'est repos pour la voix parce que j'ai toujours je dois tousser beaucoup, donc je dois faire attention. Mais maintenant, je dois me concentrer sur la première et aussi deux jours après le premier spectacle, j'ai un concert à Liederabend au Carnegie Hall. Donc aussi pour ça, je dois sauver un peu de ma voix.
Et ça, c'est important. C'est à part égale la carrière du chanteur d'opéra aujourd'hui et la carrière du lead de la mélodie. Il y a un Winterreise qui sort chez Sony, c'est ça. Mais c'est à part égale cette carrière que vous souhaitez continuer de mener, la carrière de chanteur d'opéra et la mélodie, le lead.
C'est pas égal. C'est plus difficile d'établir une carrière comme chanteur de lead. Parce que l'opéra mange beaucoup de temps. Après 20 ans de carrière, c'est la première fois pour moi, dans cet printemps, de faire un vrai tour avec des concerts de lead.
Ça veut dire que l'agenda de Jonas Kaufmann, chanteur d'opéra, il est plein jusqu'à quelle date? Faites-moi peur.
Maintenant, c'est 2014.
Est-ce que vous le savez
vous-même? 18-19.
Merci beaucoup.
Merci.
Il est de grand Dieu.
ville de Werther. C'était donc au Met le 18 février avec Jonas Kaufmann, avec Sophie Koch, Alain Altinoglu qui dirigeait le chœur et l'orchestre du Metropolitan Opera. Et notez donc cette date dans votre agenda, le 15 mars prochain, la diffusion dans les salles de cinéma de cette nouvelle production new-yorkaise de l'opéra de Jules Massenet. Autre rendez-vous à ne pas manquer également, cette fois sur France Musique, la Roussalka de Dvorak que nous évoquions la semaine dernière. Vous pourrez l'écouter samedi prochain dans la soirée lyrique de Judith Chen. Et puis j'aurais été quasi complet en vous signalant également la sortie en DVD d'un Faust de Gounod, capté au Met avec Jonas Kaufmann dans le rôle titre et Yannick Nézet-Séguin à la baguette, DVD qui paraît sous le label Deutsche Grammophon.
Alors moi je fais une prévision à Radio France aujourd'hui, à France Musique. Je dis qu'un jour, Jonas Kaufmann non seulement sera chef d'orchestre, mais sera un très grand chef d'orchestre. Je prends un pari. Au revoir, Jonas.
Merci beaucoup.
Alors, l'autre merci. Pari, quand Jonas dirigera, je ne chanterai pas. Ça, c'est sûr. Si.
C'est Agnès Catou qui a réalisé ce numéro de L'Air des Lieux. Un grand merci à elle, à Jean-Louis Deloncle qui était aux manettes pour le mixage, à Marie-Christine Ferdinand qui prépare cette émission. Toutes les infos, la réécouter, le podcast, c'est sur francemusique.fr. La suite de notre équipée au Met, ce sera dans 15 jours, puisque dimanche prochain, eh bien, ce sera honneur aux dames, comme toute la semaine d'ailleurs, et dès demain sur France Musique. Il est 23h30, vous avez rendez-vous avec Anne Montaron. Bonsoir Anne.